Bien. Si vous voulez bien reprendre. Donc, je vous avais laissé la dernière fois à la révélation du scandale Lewinsky qui va ébranler la présidence de Clinton. Et de fait, lors de l'entretien du 22 janvier 1998 entre Clinton et Arafat, en dépit de la capacité de Clinton de compartimentaliser, comme on dit en mauvais français, l'affaire est dominée par les retombées du scandale. Certes, le président tente de faire accepter à son interlocuteur l'idée d'une approche d'obligation parallèle. Les Palestiniens prendraient les mesures de sécurité prévues, c'est-à-dire arrestation et confiscation d'armes, tandis que les Israéliens procéderaient à un redéploiement progressif. Ross a persuadé Clinton de proposer une acceptation immédiate du principe de la constitution d'un État palestinien à la suite du règlement final en échange de l'abandon du troisième redéploiement. Mais à la grande incompréhension de la partie américaine, le leader palestinien privilégie la terre au symbolisme politique. Abou Mazen est tenté d'accepter, mais Arafat lui répond que dans ce cas, il est prêt à démissionner et à lui laisser régler les affaires à Gaza. Et là, on est évidemment sur un point essentiel qui conduira à l'échec de Camp David II en 2000. C'est que les Américains voient la satisfaction d'ordre symbolique qui est la constitution de l'État palestinien, mais ne comprennent pas que la priorité absolue pour les Palestiniens, c'est la conservation de la terre, le politique étant après. Donc, les Palestiniens fournissent une nouvelle lettre affirmant l'annulation de toutes les clauses de la Charte nationale palestinienne contraire aux accords d'Oslo, avec cette fois la référence précise des articles concernés, mais cela ne suffit pas à Netanyahou qui continue d'exiger un vote de tiers du Conseil national palestinien. Arafat sort de la réunion très inquiet. La conférence de presse consacrée par le président au processus de paix a été complètement éclipsée par des questions relatives à ses frasques sexuelles. Il lui faut un Bill Clinton en position de force afin d'être capable de contraindre Netanyahou à respecter ses obligations. Or, le spectacle qu'il voit à Washington lui est incompréhensible. Très rapidement se répand dans les milieux palestiniens et arabes l'idée que l'affaire Lewinsky est un complot sioniste destiné à affaiblir le président des États-Unis et à l'empêcher d'exercer des pressions sur Israël. De fait, la presse israélienne souligne que la stagiaire est juive plutôt pratiquante. Certains rabbins nationalistes voient en elle une nouvelle Esther cherchant à gagner la faveur du souverain pour sauver son peuple. Ça, c'est toujours dit que la Bible était un texte dangereux. De l'autre côté, pour le cher Yassine, c'est une nouvelle preuve que le lobby sioniste et le sionisme mondial cause des désastres à tous ceux qui peuvent leur poser des problèmes. Cet avis est largement partagé par la presse du Moyen-Orient, ainsi que par des milieux gouvernementaux arabes, comme par exemple le premier ministre libanais Rafik Hariri, qui voit un complot sioniste dans l'affaire Lewinsky. Le passage d'Arafat à Washington a donné lieu à une querelle bien symbolique, mais riche d'enseignements. Le département d'État lui a suggéré de faire une visite officielle au musée de l'Holocauste. Le président palestinien a accepté, mais la direction du musée a refusé d'accorder un caractère officiel à cette rencontre. Pour les membres du bureau de cette fondation privée, c'est presque une profanation. L'affaire a créé une vive polémique publique. Finalement, la direction a fait machine arrière et adressé une invitation, mais il est trop tard. Accessoirement, il faut noter que le musée se trouve mal à l'aise devant l'association croissante entre les fondamentalistes chrétiens et le mouvement sioniste. Il se trouve ainsi critiqué pour avoir expliqué publiquement que l'antisémitisme avait des origines chrétiennes. S'ajoute à ce contexte troublé une nouvelle crise avec l'Irak, qui refuse de permettre une inspection des sites présidentiels par l'UNSCOM. Le chef de l'UNSCOM, Richard Butler, aggrave la crise en affirmant que l'Irak dispose de missiles à tête remplie d'anthrax capables d'anéantir la population de Tel Aviv. Cela suffit pour créer un sentiment de panique dans la population israélienne qui se construit sur le souvenir de 1990 et au-delà de l'Holocauste. Les milieux officiels israéliens répondent qu'Israël a les moyens d'agir par des représailles encore plus terribles. Netanyahou en profite pour insister sur l'environnement dangereux dans lequel se trouve l'État hébreu, ce qui justifie sa politique de force envers les Palestiniens. Et on en revient à une politique, enfin à ce qu'on appelle la concurrence des victimes entre Israéliens et Palestiniens. Concrètement, on reprend la distribution des masques à gaz, toujours considérées comme insuffisantes, et on évoque une campagne de vaccination massive contre les agents biologiques dont l'Irak pourrait avoir l'utilisation. Bien entendu, le tourisme est affecté par cette atmosphère de crainte. Pour Paris et Moscou, ces informations ne sont pas corroborées par le contenu des rapports de l'UNSCOM. On parle de prochaines frappes américaines et britanniques, mais la crédibilité américaine est atteinte. L'administration Clinton est accusée de chercher une diversion au scandale Lewinsky. Madeleine Albright fait le tour des alliés européens et arabes des États-Unis, mais ne rencontre que peu de soutien pour une frappe américaine, à l'exception de la Grande-Bretagne et du Koweït. Ses interlocuteurs insistent sur la nécessité de progresser sur le dossier palestinien. Du côté palestinien, les manifestations populaires en faveur de Saddam Hussein sont moins importantes qu'en 1990-91 et ne sont pas soutenues par les autorités. Néanmoins, elles restent conséquentes et prennent un tour nettement américain, d'où finalement leur interdiction. Il en est de même en Jordanie, où l'état de santé du roi Hussein s'est de nouveau aggravé. Le Hamas se solidarise avec l'Irak et affirme qu'une attaque contre Bagdad serait une agression contre le monde islamique. Netanyahou en profite pour marquer la permanence du refus de l'existence de l'État d'Israël, mais en même temps, il marque que le danger d'une attaque irakienne est minime. Voilà une excellente caricature de Plantu. Je ne sais pas si vous arrivez à la lire. Finalement, la crise irakienne est réglé grâce à une visite spectaculaire du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, à la fin février. Un compromis est trouvé pour l'inspection des sites présidentiels et l'UNSCOM peut reprendre ses activités. Le soulagement est général, mais Israël s'inquiète de ce qui paraît être une victoire de Saddam Hussein. L'affaire a montré l'ampleur de l'anti-américanisme dans les régions arabes et la conviction ancrée dans les populations que l'on applique un deux poids deux mesures, en anglais double standard, en ce qui concerne l'Irak et Israël. Par différents canaux, la diplomatie américaine reprend ses propositions d'un parallélisme entre les retraits israéliens et les mesures de sécurité appliquées par les Palestiniens. Cela couvrirait les fameux 13%, en reprenant la proposition israélienne pour le premier redéploiement et en la complétant par le second. En trois mois, tous les engagements pris concernant le port et l'aéroport de Gaza seraient accomplis, à l'exception du troisième redéploiement. Les deux parties s'engagent à étudier les propositions américaines et à ne pas les rendre publiques. L'affaire Lewinsky et la crise irakienne concentrent l'attention extérieure et stratégiquement, il vaut mieux que ce soit l'adversaire qui dise le premier non aux Américains. En Israël, après la publication d'un rapport sur l'affaire Meshal et au moment d'un nouvel échec du Mossad, cette fois en Suisse, où des agents israéliens sont pris en flagrant délit de cambriolage, le chef du service secret, Denis Yatom, est contraint de démissionner. Il est remplacé dans ses fonctions par Ephraim Halevi, l'ami du roi Hussein. Cela permet une reprise spectaculaire des relations politiques entre Israël et la Jordanie, avec des rencontres de plus haut niveau. Au début mars, Netanyahou lance une grande campagne de propagande aux États-Unis afin de désamorcer les propositions de l'administration Clinton. Des envoyés font le tour des amis d'Israël pour leur expliquer que seul le peuple d'Israël peut déterminer l'ampleur de ses besoins de sécurité. Des pressions sur l'État d'Israël n'auraient que des résultats improductifs. Platement, le département d'État est obligé de souligner qu'il n'existe pas de plan américain, mais seulement d'idées destinées à rapprocher les positions des uns et des autres. Parallèlement, Netanyahou tente une manœuvre diplomatique en proposant un retrait du Liban Sud en accord avec le gouvernement libanais. La Syrie s'y oppose tout de suite, ne voulant aucune disjonction entre le sort du Liban Sud et celui du Golan. La guerre permanente de basse intensité dans le territoire libanais occupé est son meilleur instrument de pression pour obtenir la rétrocession des territoires occupés syriens. Dans les négociations, il n'a jamais été question que Damas interdise les activités de Hezbollah, mais il a été clairement entendu qu'en cas d'accord, la Syrie pourrait être garante de la sécurité de la frontière libanaise. La résolution 425 prévoit un retrait inconditionnel des Israéliens du territoire libanais, mais Kofi Annan, en visite à Beyrouth le 20 mars, navigue habilement entre les lignes pour exprimer à la fois son attachement à une application littérale de la 425 et la nécessité de prendre en compte les deux points de vue libanais et israéliens sur cette question. Abruptement, cela donne, il faut être deux pour appliquer la 425. Le 10 mars 1998, un incident risque de provoquer une explosion en Cisjordanie. À un barrage près d'Hébron, trois Palestiniens sont tués et deux autres blessés par des soldats israéliens. Les témoins donnent des versions contradictoires de l'incident. Les protestations sont violentes, mais la situation reste sous contrôle grâce à la coopération entre les forces de l'ordre israéliennes et palestiniennes. Netanyahou adresse ses condoléances à Arafat, mais les soldats israéliens ne sont pas poursuivis pour cette bavure due à un concours de circonstances. Tout en se déclarant complètement engagé dans le processus de paix, le chef de l'autorité palestinienne réclame une force internationale pour protéger la population palestinienne. Dennis Ross tente une manœuvre de contournement de l'obstruction de Netanyahou en cherchant à obtenir d'Arafat l'acceptation de la solution à 13%, ce qui contraindrait le premier ministre israélien à apparaître comme le principal obstacle à la paix. Ross se rend dans ce but sur le terrain à partir du 25 mars. Dans le but de parer la manœuvre, le gouvernement israélien annonce le 22 mars qu'un tel projet serait inacceptable. Au-delà de 9%, la sécurité d'Israël serait en danger. L'envoyé américain exerce le maximum de pression sur Arafat, qui finit par accéder à un oui de principe à ce qui lui a été présenté oralement, comprenant toutes les demandes sécuritaires exigées par Israël. C'est au tour maintenant de Netanyahou d'atermoyer, en pinaillant sur les détails, tout en refusant de bouger sur l'ampleur du redéploiement. Assez clairement, l'administration Clinton laisse entendre à la presse que l'impasse actuelle est due à l'immobilisme de Netanyahou, qui préfère une confrontation avec les États-Unis plutôt qu'avec sa propre majorité. Immédiatement, les amis d'Israël sont mobilisés. Les trois quarts des sénateurs signent une lettre pressant le président de ne pas présenter de proposition de paix qui irait contre l'avis du gouvernement israélien. Il faut pousser les Palestiniens à accepter la dernière offre d'Israël et à passer aux négociations sur le statut final, 2 avril 1998. Dennis Ross revient à la charge. Il essaye de trouver un compromis entre ses 13% et le 9% de Netanyahou en proposant que la différence comprenne des zones industrielles et des réserves naturelles. Le premier ministre israélien semble aller dans ce sens, puis trouvant l'idée ingénieuse, veut l'utiliser pour ses 9%. Madeleine Albright, qui s'impatiente, propose alors une rencontre à Londres le 4 mai, où elle verrait successivement Netanyahou et Arafat. Tony Blair, qui vient de remporter le grand succès de l'accord de paix en Irlande du Nord, sera l'organisateur officiel de cette réunion et lui donnera ainsi un cachet européen. Les États-Unis s'associent étroitement aux cérémonies célébrant le 50e anniversaire de la création de l'État d'Israël selon le calendrier hébraïque. On se glorifie d'être devenu la première puissance militaire du Moyen-Orient et on s'inquiète de l'âpreté du clivage entre laïcs et religieux qui risque de tourner à la guerre culturelle. Les Palestiniens des territoires soumis à un bouclage préventif rappellent que pour eux il s'agit de la Nakba, la catastrophe de leur expulsion. Les Arabes israéliens s'associent à cette vue, montrant ainsi les difficultés de constituer un projet national associant vainqueurs et vaincus de 1948. La droite israélienne est prompte à les accuser de déloyauté. Le vice-président Al Gore représente son pays aux cérémonies officielles. Il se montre un partisan affirmé de l'amitié israélo-américaine, vantant les mérites de la démocratie israélienne. On y voit plus une préoccupation électorale pour la future élection présidentielle de 2000 qu'une action diplomatique. Dans son entretien avec le vice-président, Arafat se montre complaisant devant toutes les demandes américaines. Avant même la rencontre de Londres, Albright se montre pessimiste. Rien ne permet de croire un rapprochement des positions entre les deux parties. En même temps, les Américains les somment d'avancer. Netanyahou se déclare assuré qu'un échec ne remettra pas en cause les fondements de l'amitié israélo-américaine. Les Palestiniens laissent entendre qu'en cas de poursuite de l'impasse, la violence risque de réapparaître. Les rencontres du 4 mai se déroulent comme on pouvait s'y attendre, même si elles s'étendent jusqu'au lendemain. Netanyahou refuse d'abord de considérer la question des 13%. Il veut des assurances sécuritaires de la part des Palestiniens et un engagement des Américains sur le contenu du règlement final. Pressé par ses interlocuteurs, il indique qu'il pourra aller jusqu'à 12%, suivi trois mois après de 1% supplémentaire. Ce 1% pourrait constituer le troisième redéploiement. De son côté, Arafat ne pose aucun problème, s'en tenant aux 13% des Américains. Finalement, Albright propose une nouvelle réunion la semaine suivante à Washington pour lancer les négociations sur le statut final. Dans le communiqué américain et dans les déclarations à la presse, il est indiqué qu'Arafat a accepté en principe les propositions américaines, tandis que Netanyahou a déployé un effort constructif, ce qui montre la dissymétrie des positions. La réunion de Washington est conditionnée à l'acceptation préalable des positions américaines, et on ne pourra aborder le règlement final qu'une fois les autres questions réglées. Immédiatement, les républicains sous la direction de Newt Gingrich accusent l'administration Clinton de faire chanter Israël pour le forcer à participer aux négociations. Clinton se serait allié à Arafat contre Netanyahou. Le premier ministre israélien, qui a d'abord vanté ses succès en matière de sécurité, refuse maintenant de céder à ce qu'il considère comme un ultimatum américain. Il convoque immédiatement Denis Strauss à Jérusalem. Nouvelle complication, Hillary Clinton, s'adressant en tant que première dame des États-Unis par vidéoconférence à une rencontre entre jeunes Arabes et Israéliens en Suisse, se déclare favorable à la constitution d'un État palestinien. Cela tranche avec la position officielle de son pays. Immédiatement, la Maison-Blanche affirme qu'il s'agit là d'une opinion personnelle et est aussi obligée d'affirmer qu'il n'y a pas d'ultimatum adressé à Israël. Netanyahou fait une véritable scène à Denis Strauss devant son gouvernement, puis on s'entend pour retarder à la fin du mois la réunion de Washington. Le délai ainsi obtenu permettrait au gouvernement israélien de statuer sur la question du redéploiement. Quant au Premier ministre, il se rendra de toute façon aux États-Unis pour une visite prévue de longue date. La rencontre entre Netanyahou et Albright le 13 mai n'apporte rien de nouveau. Ariel Sharon, chef des intransigeants, a refusé d'y participer. C'est lui qui a défini que 9% constituerait une limite à ne pas dépasser. Il s'est targué de ses connaissances militaires pour affirmer qu'au-delà, la sécurité d'Israël ne serait pas assurée. Et maintenant, il a démontré que Netanyahou n'a pas le mandat politique pour proposer plus. Il est clair qu'il n'y aura pas de réunion à Washington à la fin du mois pour commencer les négociations sur le statut final. avec une présidence américaine affaiblie par l'affaire Lewinsky, il est impossible à l'administration Clinton de se lancer dans une épreuve de force avec Netanyahou, d'autant plus que ce dernier profite de son séjour pour se rallier à lui les principales causantes de la composante de la communauté juive américaine. Le 14 mai, les Palestiniens commémorent le cinquantenaire de la Nakba, selon le calendrier grégorien. Les manifestations s'étendent à l'ensemble des territoires occupés à Jérusalem-Est. À Gaza, l'armée israélienne tire sur les manifestants qui se rapprochent des colonies. Le bilan est lourd, 8 morts dont 2 enfants, auxquels il faut ajouter un mort à Ramallah. Les blessés sont nombreux. Les Israéliens invoquent la légitime défense, mais on ne comprend aucun blessé dans leur rang. Le scénario le plus probable est que l'autorité palestinienne a voulu envoyer un signal politique tout en contrôlant la situation, y compris par une certaine coordination avec les Israéliens, mais qu'à Gaza, elle a perdu la maîtrise de la situation. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'autorité palestinienne organise les manifestations et en même temps coordonne l'action avec l'armée israélienne. Elle gère des deux côtés à la fois. Pour les Palestiniens, les manifestations sont un rappel qu'ils existent et qu'ils ont des droits. Les deux grands mots d'ordre sont la constitution d'un État palestinien et le droit au retour des réfugiés palestiniens dans leur terre d'origine. Pour Netanyahou, c'est la démonstration que les Palestiniens n'acceptent pas le caractère juif de l'État d'Israël. La tension diminue lentement les jours suivants. Les patrouilles mixtes israélo-palestiniennes reprennent progressivement. Il a été convenu à Washington de poursuivre les discussions entre Israéliens et Américains par téléphone. Netanyahou tente à plusieurs reprises d'obtenir une victoire psychologique en proposant 12,5%. Mais Ross lui répond que dans ce cas, il peut ajouter 0,5% supplémentaire pour arriver au fatidique 13%. On explore alors la possibilité de combler la différence entre la position américaine et la position israélienne en créant une catégorie intermédiaire de territoire qui serait plus que la zone C et moins que la zone B. La zone H2 à Hébron pourrait servir de modèle. On ne tient pas compte que cette expérience fonctionne très mal. La question essentielle est le contrôle du foncier. En zone H2, les Israéliens ont droit de veto sur les projets immobiliers des Palestiniens. Alors, vous voyez comment le processus de paix et les accords ont engendré leur vocabulaire zone ABC, H1, H2, etc. Netanyahou propose alors la formule 9% plus 4% avec un statut analogue à la zone H2, plus une réunion du Conseil national palestinien par Arafat pour modifier la charte palestinienne et pas de position américaine sur un troisième redéploiement. Après étude, les Américains proposent 11% plus 2. Netanyahou rejette avec véhémence cette position et Ross menace de mettre fin publiquement à la médiation américaine. Le marchandage se poursuit âprement pour arriver à un accord sur la base 10 plus 3. Il faut maintenant vendre le projet aux Palestiniens. Ross rencontre secrètement Abou Mazen et Abou Ala à Londres. Il présente le projet comme une idée américaine. Il est peut-être le seul à penser qu'il est crédible. Ses interlocuteurs identifient immédiatement le problème. En zone H2, les Israéliens conserveront le contrôle du foncier. C'est la seule différence avec la zone B. Abou Mazen propose que les 3% soient en réserve naturelle ou, de toute façon, il est interdit de bâtir. Abou Ala suggère que les Israéliens conservent l'intégralité des fonctions de police, ce qui ferait la différence avec la zone B. Dès lors, Ross penche pour la solution de la réserve naturelle. Reste à passer à l'écrit. La stratégie de Netanyahou de négocier exclusivement avec les Américains a charge pour ces derniers de vendre le texte aux Palestiniens, c'est-à-dire de l'imposer. Les négociateurs américains doivent donc prendre en compte les exigences israéliennes et la limite de l'acceptable pour les Palestiniens. Ce n'est que dans la première semaine de juillet que l'on arrive à finaliser le texte israélo-américain. Pendant ce temps, la France s'active à proposer en liaison avec l'Égypte une conférence des pays résolus à sauver la paix. La Syrie s'y montre intéressée, mais ni les Israéliens ni les Américains n'en veulent entendre parler. L'envoyé spécial au Proche-Orient, Miguel Ángel Moratinos est mandaté par les instances européennes pour poursuivre l'affaire. Le premier ministre israélien n'a toujours pas consulté son gouvernement sur l'étendue du redéploiement, ce qui provoque un fort mécontentement dans sa majorité. Il envisage publiquement un référendum sur cette question, ce qui serait pour lui un moyen supplémentaire de gagner du temps. Pendant ce temps-là, le cher Yassine s'est rendu en tournée dans divers pays du Moyen-Orient pour lever des fonds pour le Hamas. Il aurait obtenu des financements de l'Iran, mais les ressources les plus importantes viennent de contributions privées des pays du Golfe. Cela permet de remplacer les fonds levés aux États-Unis par le biais d'organisations caritatives islamiques qui viennent d'être interdites. Les Israéliens hésitent à laisser rentrer le cher à Gaza et le Hamas menace en cas d'interdiction d'avoir recours à une vague d'attentats sans précédent. Comme on vient de connaître une trêve de fête d'assez longue durée, il n'est pas question de prendre un tel risque. Le cher Yassine rentre le 25 juin, après avoir été retenu quelques heures à la frontière par les Israéliens. Arafat est affaibli. Il est obligé de dissoudre son gouvernement devant la pression du Conseil de l'autorité palestinienne qui a lancé une campagne contre la corruption. Il a fait des avances au Hamas, lui proposant de participer au pouvoir, ce qui a immédiatement provoqué l'opposition résolue des États-Unis et d'Israël. L'annonce de l'extension des services municipaux de la ville de Jérusalem à un certain nombre de colonies se trouvant dans sa périphérie, établissant ainsi un grand Jérusalem, provoque une forte tension avec les Palestiniens et une vaste réprobation internationale. Le gouvernement israélien se défend en affirmant qu'il s'agit là d'une mesure technique destinée à une meilleure gestion des infrastructures et n'ayant pas de caractère politique. Mais tout le monde dans la région se rappelle que l'annexion de Jérusalem en 1967, avait été présentée comme une mesure technique d'extension de la loi israélienne sur le territoire arabe de la ville sainte. Donc, le renvoi au caractère technique n'est pas crédible pour les autres. Madeleine Albright l'a définie comme provocatrice, puis la diplomatie américaine tente d'escamoter le problème en le renvoyant aux négociations sur le statut final. Netanyahou appelle à l'union de tous les Israéliens pour la défense de Jérusalem. Il faut rappeler que les annexions, c'est ce que je disais, de Jérusalem ont été présentées comme des extensions géographiques du domaine de compétence des lois israéliennes. L'affaire est transmise au Conseil de sécurité. Les États-Unis définissent cette démarche comme contre-productive en attisant les tensions entre les parties. Il en est de même de la demande palestinienne de rehausser le statut de la Palestine à l'Assemblée générale à un niveau quasi étatique. Le 25 juin, Israël échange avec le Hezbollah la dépouille mortelle du soldat israélien mort au Liban en septembre dernier, contre 40 dépouilles de combattants libanais, dont celui du fils de Hassan Nasrallah, et la libération de 60 prisonniers. La négociation est passée par la Croix-Rouge internationale, la France et le gouvernement libanais, et a pris 10 mois. C'est la première fois qu'Israël a accepté d'échanger des prisonniers contre une dépouille, mais les personnalités chiites détenues en otage n'ont pas été prises en compte. Le 8 juillet, l'Assemblée générale de l'ONU accorde une victoire symbolique aux Palestiniens en leur donnant à leur délégation des droits supplémentaires, comme celui de participer au débat et de se porter co-auteur des projets de résolution et de décision touchant à la Palestine et au Moyen-Orient. Elle conserve le statut d'observateur sans droit de vote. La résolution a été votée par 124 voix contre 4, États-Unis, Israël, Micronésie, îles Marshall et 10 abstentions. En ce qui concerne le Grand Jérusalem, afin d'éviter un veto américain, le Conseil de sécurité se contente d'une déclaration de son président le 13 juillet, engageant Israël à ne pas donner suite à cette décision et à ne prendre aucune autre mesure qui compromettrait l'issue des négociations sur le statut définitif des territoires palestiniens. Dans ces deux dossiers, il est clair qu'il existe un consensus international qui s'oppose à l'axe israélo-américain. Le 8 juillet, le texte israélo-américain est transmis à Saeb Erekat, venu à Washington dans ce but. À la première lecture, il considère qu'il doit comprendre plus de réciprocité et moins de détails de procédure. Il est transmis pour étude au service de sécurité palestinien qui rejette le document israélien et s'en tienne au mémorandum du 17 décembre. Document israélien, bien que ce soit officiellement un document américain. Après tout, il a été approuvé par les responsables israéliens de la sécurité et convient donc aux deux parties. La volonté de Netanyahou de renégocier est un prétexte pour dresser un obstacle supplémentaire au redéploiement. Ross voit dans ce refus l'action de Dahlan, le chef de la sécurité palestinienne pour la bande de Gaza. Pour sortir de l'impasse, on décide la constitution d'un canal secret de négociation entre Abu Arla et un émissaire israélien. Ils y travaillent presque quotidiennement une grande partie de l'été. On arrive à se mettre d'accord sur des formulations qui ne changent pas grandement le fond des choses. Une fois ce travail terminé, Arafat renvoie le document pour étude à un comité composé des rivaux d'Abu Arla. Ce dernier, furieux, se retire de la négociation. Publiquement, on a organisé des rencontres à différents niveaux entre responsables israéliens et palestiniens qui ne conduisent à rien, puisque les Palestiniens s'en tiennent aux positions américaines qui constituent pour eux un minimum. Ils veulent démontrer que l'obstruction vient de l'autre partie, que c'est aux Américains de mettre fin à l'impasse. Sinon, faute de perspectives diplomatiques, ils proclameront l'État palestinien à la fin de la période d'intérim en mai 1999. On s'inquiète de la santé du roi Hussein, qui doit faire face à une récidive de son cancer et qui est hospitalisé aux États-Unis. Au sein du gouvernement israélien, Sharon mène l'opposition à tout redéploiement supérieur à 9% de la Cisjordanie. Le chiffre prend ainsi une valeur sacrée pour la sécurité d'Israël. Au début du mois d'août, Arafat remanie son gouvernement, maintient les ministres accusés publiquement de corruption, ce qui provoque la démission d'Anan Ashraoui et d'Abdel Jawad Saleh, l'ancien maire d'El Biré. Après un débat assez violent où la personne même d'Arafat est prise à partie, le Conseil de l'autorité palestinienne approuve le nouveau gouvernement par 58 voix contre 25 et 3 abstentions. Le 7 août 1998 a lieu un double attentat suicide contre les ambassades américaines de Nairobi, Kenya et Dar es Salaam, Tanzanie. L'intégrante majorité des victimes est africaine, 234 morts, dont 12 Américains. L'enquête se tourne rapidement vers le djihad international, Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, qui vient en effet de lancer son djihad mondial contre les États-Unis. Le 20 août, la riposte américaine prend la forme d'un tir de missile de croisière contre des sites d'entraînement de combattants en Afghanistan et une usine de produits pharmaceutiques au Soudan. Le choix de ce dernier objectif se montrera discutable. Les mauvaises langues font la relation entre l'action américaine et la situation du président, qui rappelle celle décrite par le film américain Wag the Dog, je ne me rappelle plus le titre français, c'est avec Dustin Hoffman, dans lequel un producteur américain invente une guerre contre l'Albanie, désignée comme base de terrorisme, afin de détourner l'attention de l'opinion publique d'un président américain pris dans la tourmente d'un scandale politico-sexuel. Le film était très bon d'ailleurs. Netanyahou associe la lutte des États-Unis contre le terrorisme à celle menée par Israël, c'est-à-dire non seulement s'en prendre aux terroristes, mais aussi à l'infrastructure qui les soutient. On voit la confirmation de la menace réitérée par plusieurs responsables israéliens de s'en prendre aux infrastructures civiles libanaises à la suite de nouvelles pertes de l'armée israélienne dans la zone occupée du Liban Sud. La condamnation est générale au Proche-Orient. On souligne l'absence de pression américaine contre le terrorisme d'État israélien et l'empressement à s'en prendre aux musulmans. L'Égypte prend la défense du Soudan agressé. Dans les territoires palestiniens, des manifestations de protestation ont lieu contre la politique américaine. L'autorité palestinienne exprime ses préoccupations devant les frappes américaines, mais condamne aussi sans réserve le terrorisme mondial. Le Hezbollah, qui ne cache pas d'ailleurs son hostilité au Taliban afghan qui accueille Ben Laden, appelle à faire face au terrorisme international américain. En Cisjordanie, après le meurtre d'un chef religieux des colons à Hébron, la tension est particulièrement forte. Les 150 000 habitants de la ville sont mis sous blocus, en partie pour la recherche du coupable, une partie pour protéger la population de la rage des colons. Netanyahou proclame son attachement à l'extension de l'implantation juive à Hébron, mais ne s'y rend pas de peur de se voir prendre à partie par les colons. Il s'abstient aussi de participer à la célébration à Oslo du 5e anniversaire des accords du même nom, le 24 août. Pour le gouvernement israélien, il n'y a rien à célébrer. On admet seulement la réalité créée par les accords. Peres et Arafat s'y rendent. Le chef de l'autorité palestinienne se montre en public relativement optimiste sur la conclusion proche d'un accord de désengagement en Cisjordanie. En privé, Peres et Ross lui expliquent qu'il n'obtiendra pas mieux pour l'instant que les 13%. Mais le président de l'autorité palestinienne veut des précisions concernant la libération de prisonniers et affirme qu'il ne prendra sa décision qu'une fois l'ensemble des propositions mises sur la table. Il demande que l'émissaire américain revienne prochainement dans la région. Après l'assassinat le 25 août par un tir aérien israélien d'un responsable du mouvement Hamal et de bombardements par l'ALS d'un village du Liban Sud, le Hezbollah réplique par une volée de roquettes sur Kiryat Shmoné, qui fait une douzaine de blessés légers. Pour l'armée israélienne, l'assassinat était un acte légitime puisque la victime était l'un des organisateurs des opérations contre les soldats israéliens. Au début de septembre, le comité de surveillance franco-américain établira que les deux parties sont responsables de la violation des accords, stipulant que l'on ne doit pas s'en prendre aux civils. Le 27 août, une bombe à Tel Aviv provoque quelques blessés légers. C'est le premier attentat depuis des mois à l'intérieur des territoires israéliens. L'autorité palestinienne condamne l'attentat tandis que le Hamas refuse d'en endosser la responsabilité. L'enquête israélienne elle-même penche plutôt pour un acte individuel. Dans les premiers jours de septembre, officiellement après des entretiens téléphoniques entre Clinton, Netanyahu et Arafat, on annonce la prochaine venue de Dennis Ross. Le président américain veut un succès de politique étrangère, il est prêt à organiser un sommet dans ce sens. Cela fera diversion des péripéties juridiques de l'affaire Levinsky et mettra les États-Unis en meilleure position régionale dans la nouvelle crise irakienne, qui s'annonce toujours à propos du rôle des inspecteurs de l'ONU. Selon ses dires postérieurs, Dennis Ross est moins optimiste sur ce sujet, mais soumis aux pressions insistantes de Madeleine Albright et de Sandy Berger, le conseiller à la sécurité nationale. Il arrive le 9 septembre 1998 et rencontre immédiatement Arafat qui l'interroge sur l'avenir de Bill Clinton. L'émissaire américain se montre optimiste en dépit de ses doutes, qu'il ne communique pas à son interlocuteur. Il tient les mêmes propos à Netanyahou le lendemain, mais voit bien que le premier ministre israélien, expert en politique américaine, n'y croit pas. La question essentielle est l'ordre des priorités qui sera établi par le plan même du futur accord. Pour l'autorité palestinienne, la terre compte avant tout, et il n'est pas question de céder sur ce point, même en cas de progrès sur les autres dossiers, comme ceux concernant l'amélioration des situations économiques des Palestiniens. Pour Netanyahou, au moins dans son discours, la sécurité est le seul dossier qui compte. La question des prisonniers monte la distance entre les parties. Pour les Israéliens, ce sont des assassins qui ont du sang juif sur les mains. Pour les Palestiniens, ce sont des politiques, en particulier ceux qui ont été arrêtés avant les accords d'Oslo, c'est-à-dire ceux qui ont agi sous les ordres des responsables qui sont devenus les partenaires d'Israël. Si on veut évoquer les actes de violence, il faudrait alors prendre en compte les actes commis contre les Arabes. Le discours de libération nationale s'oppose à celui de l'ordre juridique d'un État pour qui les pertes de l'autre sont de nature collatérale ou causées par des nécessités de sécurité indispensables pour la survie d'une nation, ce qui permet de justifier ainsi toutes les violations de l'ordre juridique normal. les Palestiniens négocient dans une atmosphère de contestation diffuse des accords d'Oslo qui ont entraîné une déception généralisée aussi bien dans les domaines politiques qu'économiques. Certes, il semble bien que le Hamas s'en tienne à une trêve de fait des attentats, tout aussi bien du fait que l'on n'en a pas besoin de lui pour permettre le processus de paix dans l'impasse, Netanyahou suffit, que des mesures de sécurité prises par l'autorité palestinienne. Le mouvement est en position d'attente, comptant que la frustration croissante des gens le mettra en position de force. De l'autre côté de l'échiquier politique palestinien, les anciens négociateurs de Washington, Karim Ben Abdel Shafi, ou les intellectuels comme Edouard Saïd, condamnent la capitulation de fait que représentent les accords d'Oslo qui ont permis l'accélération de la dépossession palestinienne et l'état du régime autocratique d'Arafat comme la corruption, le clientélisme et le refus d'établir un véritable état de droit. Du côté israélien, Netanyahou et ses quelques conseillers négocient pratiquement seuls. Le gouvernement et même le petit cercle des ministres directement concernés ne sont pas informés du déroulement des discussions. Le Premier ministre va même jusqu'à utiliser Denis Ross pour faire passer le message aux membres du cabinet restreint. La grande majorité de la coalition gouvernementale est hostile au moindre changement du statu quo, défini comme un risque insupportable pour la sécurité d'Israël. Dans l'hypothèse contestable que Netanyahou a une réelle volonté d'avancer, il est prisonnier de sa rhétorique et de ses prises de position précédentes. La mort de deux responsables du Hamas, tués le 10 septembre à Hébron par l'armée israélienne, pèse sur l'atmosphère générale. Pour les militaires israéliens, ils ont été tués lors de la tentative d'arrestation et de toute façon, il s'agit d'architerroristes. Pour le mouvement islamiste, c'est un nouvel assassinat ciblé, probablement commis en liaison avec les services de l'autorité palestinienne. Devant le risque de représailles, les territoires sont de nouveau bouclés. Les manifestations de protestation sont contenues par les forces de police palestiniennes qui agissent en coordination avec l'armée israélienne. L'ouverture d'un casino à Jéricho est érigée comme modèle de développement économique. Les jeux de hasard sont interdits en Israël et les adeptes se rendaient soit dans des bateaux hors eau territoriale en mer Rouge, soit dans les grands hôtels du Sinaï égyptien. Le personnel de service est palestinien et les professionnels viennent des pays occidentaux. La clientèle est essentiellement israélienne. Le projet, dont le coût est de l'ordre de 150 millions de dollars, est mené par un groupe d'investisseurs autrichiens, mais il y aurait en sous-main des actionnaires palestiniens. Le 20 septembre, Denis Ross rentre aux États-Unis pour célébrer en famille les fêtes du Nouvel An juif. La négociation sera déplacée à New York à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Arafat reprend le thème d'une proclamation de l'État de Palestine après la date fatidique du 4 mai 1999. Netanyahou répond qu'un tel geste mettrait fin aux accords et conduirait à l'annexion immédiate d'une partie des territoires occupés. Quant aux États-Unis, ils continuent de s'opposer à toute mesure unilatérale, position dont on a vu l'inefficacité complète en ce qui concerne les progrès de la colonisation. Lors de son discours soumis à une intense pression de la part des Américains, Arafat se montre plus évasif en ce qui concerne la date fatidique. On continue de discuter le volet de l'accord concernant la sécurité. Les Palestiniens ne peuvent accepter d'apparaître comme des simples instruments de la police israélienne. Ils se tournent vers la CIA qui pourrait apparaître comme un partenaire impartial, voire comme un arbitre. Le 28 septembre, Clinton organise une rencontre entre Arafat et Netanyahou à la Maison-Blanche. Il est maintenant en mesure d'annoncer un sommet tripartite aux États-Unis pour la mi-octobre. À Hébron, la violence devient presque quotidienne dans la seconde quinzaine de septembre. Le 30 septembre, un Palestinien lance deux grenades contre une patrouille israélienne faisant 13 blessés israéliens et 11 Palestiniens. L'autorité palestinienne, qui considère que cet attentat vise la reprise des négociations, coopère avec les services israéliens. Un artificier du Hamas est arrêté et son matériel explosif confisqué. Cheikh Yassine reconnaît lui-même que les mesures prises par l'autorité palestinienne restreignent grandement les activités de l'aide militaire du Hamas. Ils se moquent du projet d'établir un État palestinien sur les quelques lambeaux de terre dont dispose Arafat. Hébron est soumis à un bouclage de plusieurs jours. Dans la partie occupée par les colons israéliens, les 20 000 habitants arabes sont soumis à un strict couvre-feu. Depuis plusieurs semaines, les pays arabes, la Syrie en tête, à l'exception de la Jordanie, critiquent vivement la coopération militaire entre Israël et la Turquie. Au début d'octobre, Ankara accuse Damas de soutenir la révolte kurde du PKK dans le Kurdistan turc. Donc, rappelez-vous le principe fondamental. Les Kurdes de Turquie qui demandent l'indépendance sont des mauvais Kurdes pour les Occidentaux qui soutiennent les bons Kurdes d'Irak qui demandent la même chose. Ça, c'est de la politique. Le sud-est anatolien connaît une véritable guerre de guérilla peu couverte par les médias occidentaux et qui fait des dizaines de milliers de victimes. Le pouvoir syrien dément toute implication, mais évoque l'identité entre la politique turque et celle d'Israël, qui vise à dénier aux Arabes leurs droits et à imposer son hégémonie sur les terres et les richesses arabo-islamiques. Ostensiblement, l'armée turque entreprend des manœuvres à proximité des frontières syriennes. L'Égypte de Moubarak propose sa médiation. Les Turcs s'en tiennent à leurs exigences de la fin de tout soutien syrien au PKK, de l'expulsion de son leader Abdullah Öcalan de Syrie et du Liban et de la reconnaissance de l'intégrité du territoire turc. C'est un rappel de l'affaire du Sanjak d'Alexandrette annexée par la Turquie en 1939 au détriment de la Syrie qui n'a jamais reconnu cette annexion qui a eu lieu durant le mandat français. En fait, la France a livré le Sanjak d'Alexandrette à la Turquie contre une promesse de neutralité voire d'alliance turque dans la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, Israël se tient à l'écart de l'affaire, mais fournit selon toute probabilité à la Turquie des informations sur le dispositif militaire syrien. Vous rappelez que traditionnellement, l'Israël fournissait du soutien aux bons Kurdes, hein, ceux d'Irak. L'Iran propose à son tour sa médiation, mais la Turquie hausse le ton. Le 11 octobre, le premier ministre turc déclare « Si la Syrie ne revient pas à la raison, il est de notre devoir de faire s'écrouler le monde de la Syrie. Nous ne lorgnons le territoire de personne, mais nous sommes obligés de crever les yeux de ceux qui lorgnent notre territoire. » Finalement, Damas cède sur la principale demande turque, la fin du soutien accordé au PKK et le refus d'abriter son leader Öcalan sur son sol. Cela est d'autant plus facile qu'officiellement, jamais le PKK et son chef n'ont utilisé le territoire syrien. Les autres questions restent en suspens. Un accord est ainsi conclu le 21 octobre. Donc Öcalan va commencer, qui était censé ne pas être au Liban, va commencer une cavale mondiale qui va durer plusieurs mois avant d'être finalement arrêté et extradé en Turquie. Au Liban, la Syrie impose comme président de la République le chef de l'armée, le général Emil Lahoud, ce qui implique un amendement constitutionnel. Il se présente comme un réformateur énergique et un adversaire affirmé de Rafik Hariri qui passe à l'opposition. Le 6 octobre 1998, Albright se rend en Israël-Palestine pour préparer le sommet. Après des entretiens avec Netanyahou et Arafat, elle se déclare optimiste, alors que le premier ministre israélien reste circonspect. Dennis Ross et Martin Indyk, chargés du Proche-Orient au département d'État, restent sur place pour régler le plus de détails possible. Mais les deux parties conservent leur position finale pour le sommet à venir. Les négociateurs américains exercent les plus fortes pressions, exigeant pratiquement que l'on cède à toutes les demandes israéliennes en matière de sécurité. Darlan se révolte, ne voulant pas apparaître comme un collaborateur d'Israël, mais Ross n'accepte que des changements de formulation et non de substance. Il lui faut avoir les garanties de sécurité afin de conduire Netanyahou à accepter le redéploiement. Finalement, George Tenet est envoyé discuter avec les responsables palestiniens le contenu de l'accord de sécurité. Tenet, c'est le chef de la CIA. Les intéressés tergiversent, ne voulant rien mettre par écrit avant l'ouverture du sommet. On se met ainsi d'accord sur un texte oral qui est ensuite communiqué aux responsables israéliens de la sécurité qui semblent vouloir l'accepter. Quand David, ayant été rejeté comme lieu de conférence à cause du précédent 1978, on choisit le centre de conférence de White River dans le Maryland, ainsi que la date du 15 octobre. Le 9 octobre, Netanyahou désigne comme ministre des Affaires étrangères Ariel Sharon, âgé de 70 ans. Cela doit lui servir à apaiser les craintes de la droite de sa coalition qui menace de faire tomber le gouvernement en cas de concession aux Palestiniens. On rappelle qu'il a joué un rôle essentiel à l'époque de Begin pour l'évacuation du Sinaï. Netanyahou tente d'obtenir de Ross que les Américains acceptent que le troisième redéploiement ne soit que de 1%. L'émissaire américain réplique que c'est impossible, mais la presse israélienne affirme qu'il s'est engagé sur ce point ainsi que sur les demandes sécuritaires. On s'inquiète d'être perçu par les Palestiniens comme les porte-parole des Israéliens, alors qu'il l'est depuis très longtemps perçu comme tel. Il ne veut pas se rendre compte de, que justement qu'il est perçu comme tel. Le 11 octobre, une soldate israélienne est poignardée par un Palestinien en Cisjordanie et meurt de ses blessures. Netanyahou s'en prend au discours de haine contre les Juifs fait par les institutions palestiniennes. Le 13 octobre, un second Israélien est tué et un autre grièvement blessé à proximité de Jérusalem. Le premier ministre israélien menace de ne pas conclure d'accord si les Palestiniens n'acceptent pas les exigences sécuritaires israéliennes. Les Palestiniens répondent qu'il faut de la réciprocité et que les responsables israéliens d'assassinats de Palestiniens doivent leur être livrés. Alors, le sommet a lieu à White River. J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre la différence entre White River et White Plantation, parce que la conférence précédente entre Syriens et Israéliens avait lieu à White Plantation. En fait, le lieu exact s'appelle White River Plantation, tandis que la rencontre avec la délégation syrienne avait eu lieu à l'Aspen Institute Rye River Plantation. Les deux sites font en fait partie d'un même ensemble, celui d'une grande plantation qui, au 19e siècle, a employé jusqu'à un millier d'esclaves. La Réunion de 1998 occupe un espace plus considérable que celui utilisé pour les discussions israélo-syriennes. C'est pour ça que c'est à la fois le même endroit et pas exactement le même endroit pour la conférence de White River. Alors, logiquement, je devrais commencer de vous parler de cette conférence, mais j'en aurai deux minutes et puis je serai obligé d'interrompre. Et donc, je préfère vous laisser dans un suspense intolérable sur le sommet et la dramaturgie de la conférence de White River. Et donc, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.